Marie-France, le premier ministre du Canada, s'est montré ému aujourd'hui pendant la cérémonie officielle de remise du rapport accablant pour le gouvernement du Canada. En fait, la grande enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Mais lui, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, n'a pas utilisé le terme, entre guillemets, génocide, même s'il apparaît une centaine de fois dans le rapport de l'enquête nationale.
Oui, et dès le premier paragraphe, une enquête, Paul, qui a un rapport qui compte 1200 pages, une enquête qui aura mis 2 ans et demi, il y aura eu 14 démissions, le budget aura explosé. C'est un rapport de 231 recommandations qui sont toutes intriquées les unes dans les autres. On demande un poste d'ombudsman, un tribunal des droits des Autochtones et une ne peut pas passer seule. Il faut que toutes les 231 passent. Il y en a 21 sur le Québec, je vais t'en parler plus tard. D'abord, une pensée pour ces femmes et ces filles oubliées qui souvent sont mortes dans des circonstances vraiment troublantes ou horribles partout à travers le Canada, beaucoup en Colombie-Britannique. On se rappelle de l'horrible affaire Picton en Colombie-Britannique, près de Vancouver. Vraiment une pensée pour elles. Ce rapport vient après la fameuse commission Vérité et réconciliation, où on avait parlé cette fois-là d'un génocide culturel. Et oui, c'est un rapport qui remontait jusqu'à l'arrivée des Blancs en territoire nord-américain, qui parlait des pensionnats autochtones, qui montrait comment il y avait eu une volonté d'éradiquer la langue, la spiritualité des peuples autochtones. C'était fort, c'était puissant, ça a marqué. Ce rapport actuel concernait ou devait concerner les disparitions de femmes, mais remonte vraiment très loin, se perd dans toutes sortes d'époques. C'est sûr que c'est dramatique, c'est épouvantable, c'est de la misogynie, du sexisme, ça témoigne, ces disparitions-là, d'un laxisme incroyable des corps policiers, d'un aveuglement volontaire de leur part, mais génocide. Je trouve le mot vraiment très fort. Je suis allée voir les définitions, évidemment, tu me connais. Dans le dictionnaire, donc, génocide, crime qui consiste en l'élimination physique totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, religieux ou racial. On évoque évidemment le génocide des Juifs par les nazis, le Rwanda, tu parlais de Roméo Dallaire tout à l'heure qui se refuse à prononcer le mot génocide dans ce cas-là. On parle de l'Arménie. L'ONU a une définition déjà plus militante, déjà plus idéologique, atteinte grave à l'intégrité d'un peuple. C'est vaste, on peut y mettre plein de choses. C'est un rapport, Paul, c'est 1200, environ 1200 disparitions ou morts de femmes et de filles autochtones. C'est un rapport qui n'entre pas dans les chiffres, malgré les moyens faramineux dont a disposé la commission, qui n'identifie pas de coupable tangible. Alors, il faut une diversion. Et là, on utilise le mot génocide, on en tapisse le rapport et on part du début de l'implantation des Blancs en Amérique, alors que le but, c'était vraiment de parler précisément des femmes et des filles disparues. Déjà, il y a une dérive, déjà il y a une volonté militante. Évidemment, il va falloir entendre collectivement cette douleur-là, il va falloir revoir les façons de faire avec les Autochtones, mais c'est un rapport de militants, d'activistes. Ce n'est pas un rapport posé, c'est un rapport idéologique. Et là, le but est raté parce que ça va braquer une grande partie de la population. Déjà, François Legault se refuse à appeler ça un génocide, Pascal Bérubé aussi, le général Dallaire. Déjà, il y a vraiment une opposition et une tension, alors que c'est quelque chose qui devrait guérir et apaiser. Le leadership, on ne parle pas du tout là-dedans du leadership autochtone. Il n'est jamais questionné où sont les chefs autochtones, quelle est leur part de responsabilité dans les conditions dans lesquelles vivent leur monde. Parce qu'il y a beaucoup question de ça, comment les Autochtones vivent.
Ben oui, et on ne parle pas d'eux dans les recommandations.
Non.
Il y en a 231.
Oui, exactement. On ne parle pas des hommes autochtones. Il y a une part de responsabilité dans la violence que subissent les femmes autochtones. Jamais on en parle. On pointe le Québec. 21 recommandations précises pour le Québec. Et j'entendais des porte-parole des femmes autochtones dire « Ouais, c'est parce qu'au Québec, les nations autochtones parlent comme deuxième langue le français. » En quoi ça en fait une spécificité en ce qui concerne la violence faite aux femmes autochtones? Tu sens une espèce de... Comment dire? Tu sais, tout ce qui a commencé, toute la récrimination des Autochtones par rapport au Québec qui a commencé avec Kanata cet été. Tu sens une espèce de, comme de course à la victimisation. Non, c'est pas vous qui êtes les plus victimes. C'est pas vous qui êtes les plus minoritaires. Vous êtes minoritaires en Amérique du Nord, mais on est minoritaires, nous, en général. Il y a quelque chose de pas très sain dans cette manière de viser le Québec. Le Québec est-il pire que la Colombie-Britannique où Pictoun était à l'œuvre? On sent vraiment quelque chose de pas très net de la part des activistes. Et il y a toute la question de que va faire Justin Trudeau maintenant? Il a dit ce matin le mot « c'est honteux ce qui s'est passé », mais donc il refuse le mot « génocide ». Il s'était engagé à mettre en œuvre, dès son arrivée au pouvoir, les 94 recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation. Ici, on sent que c'est autre chose. C'est une patate chaude. Hein? C'était le gouvernement des Premières, l'ami des Premières Nations. Puis en même temps, il voit bien l'idéologie, le militantisme très affirmé qu'il y a dans ce rapport-là. Que va-t-il faire? Ça sera à suivre, mais ça ne sera pas aussi facile qu'avec Vérité et Réconciliation. Puis je terminerai en te disant que l'activisme autochtone, il est normal et il est sain. Mais je n'embarque pas quand il se déguise en rapport militant, qu'il accuse et qu'il traite de génocidaire, finalement, un peuple au complet. Nous, Canadiens, nous serions tous des génocidaires. J'ai de la misère avec ça.
Alors voilà, pour conclure avec cette première portion, la deuxième, des images spectaculaires que beaucoup de gens certainement ont vues sur YouTube, ce paquebot, ce navire de croisière qui provoque un accident à Venise. Et le moment le plus critique, c'est qu'il y a des gens qui savent bien que le navire ne pourra s'arrêter et qui va enfoncer le quai. Et là, tu devrais voir les gens fuir. Hein?
Exactement.
C'est incroyable.
Et je connais très bien cet endroit-là. Et quiconque a visité Venise sait très bien où est la gare maritime. C'est derrière le Grand Canal, le canal de Giudecca. Et ça sépare l'île de Giudecca de Venise, proprement dite. Et c'est un endroit, il est atterré. C'est vraiment un grand quai où il y a plein de terrasses, il y a plein de touristes qui sont là. Et 100 mètres plus loin, il y a la gare maritime. Donc, ça aurait pu faire beaucoup de victimes si c'était arrivé à un autre moment de la journée, c'était très tôt le matin. Ça vient poser à nouveau la question de l'interdiction des navires de croisière à Venise. Ce sont des villes flottantes. Ils avaient été interdits. Ça cause beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y a des mouvements anti-bateaux de croisière à Venise. Il y a eu une première interdiction en 2012. Il y en a eu une deuxième en 2017. Et la mairie et le gouvernement italien se chicanent sur la manière de faire. Et pendant ce temps-là, ça traîne et les bateaux arrivent. Ce bateau-là, le MSC Opéra, 65 000 tonnes, 2 700 personnes à bord. C'est vraiment énorme. Quand tu vois des photos de Venise avec, au bout d'une allée, tu vois les navires de croisière, ils ont 8, 9, 12 étages. Au maximum, à Venise, un gratte-ciel, là, c'est 4 étages. Ça écrase complètement la ville. Ils sont polluants, ils sont invasifs. Source importante de revenus pour les armateurs, certes, mais dans les villes qu'ils visitent, comme Venise, pas tant, parce que c'est vraiment un très court séjour. Les gens restent sur le bateau, dépensent à peine dans quelques boutiques, puis remontent sur leur bateau. Ce n'est pas du tourisme durable, c'est de l'entre-soi, ce n'est pas de la découverte d'autres cultures. C'est vraiment un tourisme en autarcie, un tourisme fermé. Et Venise est évidemment une ville joyau hyper fragile. La côte, la ville de Venise s'effrite et la montée des eaux est constante. Et il y a quelque chose de vraiment mortifère, de morbide dans le fait de ces bateaux-là qui arrivent et qui méprisent littéralement la ville. Et ça pose toute la question du tourisme de masse, qui est un droit acquis, mais qui vient détruire de l'intérieur l'économie des villes. Excuse-moi, je suis en train de m'étouffer avec mon sujet. Et donc, ces croisières-là, qui sont de plus en plus grosses, des bateaux de plus en plus massifs, invasifs, sont certainement les prochains dans le collimateur des gens qui se préoccupent de la survie de la planète. On a beaucoup parlé des voyages en avion. On parle beaucoup du tourisme de masse qui défait la vie des quartiers, qui est polluant, qui est excessif. Les bateaux de croisière, à mon avis, sont vraiment, vraiment les prochains qui vont être dans le collimateur parce que c'est vraiment extrêmement... c'est pas, mettons que ce n'est pas carboneutre, un bateau de croisière.
Alors, si vous n'avez pas vu ces images...
Ah, allez voir ça!
Oui, c'est assez spectaculaire et c'est disponible, évidemment, sur YouTube.
Oui.
Surtout qu'il y en a une qui est prise directement de...
Oui, il y a un voyageur sur le
bateau.
Sur un des quais du bateau, oui, qui la prend et tu vois les gens fuir à toutes jambes.
Ça se pousse.
Et je te jure, c'est vraiment, c'est pas un quai à part. Ils sont en train de construire dans une espèce de ville à quelques kilomètres au sud de Venise, une ville portuaire pour recevoir les bateaux de croisière.
Oui, ce serait
mais
plus indiqué.
Ce serait plus indiqué parce qu'en attendant, ça arrive dans une boîte à bijoux, littéralement.
Merci beaucoup, Marie-France.
À demain.